Chapitre 5. Je vais à Queen's Ferry. La pluie tomba toute la nuit, abondamment, et le matin il souffla du nord-ouest un vent d'hiver qui emporta et dispersa les nuages. Malgré tout, le soleil n'était pas encore levé, ni la dernière étoile disparue, que je m'en allai jusqu'à la rivière, où je fis un plongeon dans un endroit calme et profond. Tout revigoré de mon bain, j'allai m'asseoir à nouveau devant le feu, que je bourrai, et examiner sérieusement ma situation. L'inimitié de mon oncle ne faisait plus de doute. Sans conteste, je tenais ma vie entre mes mains, car il n'épargnerait rien pour venir à bout de me supprimer. Mais j'étais jeune et hardi, et, comme beaucoup de jeunes gens élevés à la campagne, j'avais une haute opinion de mon habileté. J'étais venu frapper à sa porte, ne valant guère mieux qu'un mendiant, et à peine plus qu'un enfant. Il m'avait accueilli par la trahison et la violence, et ce serait une belle revanche que de prendre à mon tour le dessus et de le mener comme un mouton. J'étais là, le genou entre mes mains, et souriant au feu. Je me voyais en imagination lui tirer ses secrets l'un après l'autre, et m'impatroniser finalement chez lui comme son maître et seigneur. Le sorcier Descendin avait, dit-on, fabriqué un miroir dans lequel on lisait l'avenir. Ce miroir devait être fait d'autres substances que de charbon flambant, car entre toutes les figures et les tableaux que je vis défiler devant mes yeux, il ne s'offrit pas un navire, ni un matelot à bonnet de fourrure, ni une matraque réservée à ma folle tête, ni la moindre apparence de ces tribulations prêtes à fondre sur moi. À la fin, tout gonflé de mes imaginations, je montai à l'étage, mettre en liberté mon prisonnier. Quand mon oncle fut levé, il me souhaita le bonjour poliment, et je lui répondis avec un sourire de hautaine suffisance. Peu après, nous étions assis à déjeuner, tout comme la veille. « Eh bien, monsieur, dis-je d'un ton railleur, n'avez-vous plus rien à dire ?» Et comme il ne répondait pas, « Il serait temps, je crois, de nous expliquer. Vous m'avez pris pour un gens tout cru de la campagne. » Sans plus d'intelligence ou de courage qu'une tête de poireau, je vous avais pris pour un brave homme, ou du moins guère pire qu'un autre. Il paraît que nous nous trompions tous les deux. Quelle raison vous pouvez avoir de me craindre, de me berner, d'attenter à ma vie ? Il bafouilla qu'il s'agissait d'une plaisanterie et qu'il aimait beaucoup les farces, mais voyant que je souriais, il prit un autre ton. Et me jura qu'il s'expliquerait sitôt après le déjeuner. Je lisais sur son visage qu'il n'avait pas de mensonge tout près, mais qu'il était à l'œuvre pour en forger un, et j'allais, je crois, le lui dire lorsque nous fûmes interrompus par des coups frappés à la porte. J'ordonnai à mon oncle de rester assis. J'allais ouvrir, et je vis sur le seuil un jeune garçon, presque un enfant, vêtu en matelot. À mon apparition, il se mit aussitôt à danser quelques pas d'un air de cornemuse, que je n'avais jamais entendu ni vu, claquant des doigts en mesure et d'un pied très expert. Cependant, il était bleu de froid, et il avait sur le visage une expression à mi-chemin des larmes et du rire, qui s'accordait mal avec cette apparente gaieté et qui me toucha fort. « Ce qu'on s'amuse, camarade !» s'écria-t-il d'une voix éraillée. Je lui demandai avec calme ce qui l'amusait tant. « Oh, je m'amuse, dit-il, et il se mit à chanter, car c'est mon délice qu'une belle nuit au beau temps de l'année. Ma foi, dis-je, si vous n'avez pas d'autre commission, je vais avoir l'incivilité de vous fermer la porte au nez. « Halte, frère, s'écria-t-il, vous ne savez donc pas rire, ou tenez-vous à ce que je reçoive une rossée ?» J'apporte une lettre du vieil Heasy Ozy à Monsieur Bellflower. Il me montra la lettre tout en parlant. Et j'ajoute, camarade, que j'ai cruellement faim. « Eh bien, dis-je, entrez dans la maison, et je vous donnerai un morceau, dussé-je me passer de manger. » Je l'introduisis et le fis asseoir à ma place, où il attaqua avidement les restes de notre déjeuner, tout en me lançant des clins d'œil et me faisant des tas de grimaces, attitude que le pauvre être considérait sans doute comme virile. Cependant, mon oncle avait lu la lettre et réfléchissait. Soudain, il se leva d'un air plein de vivacité et me tira à part dans le coin le plus reculé de la pièce. « Lisez cela, dit-il en me remettant la lettre. La voici étalée devant moi et je la copie. Auberge de Howes à Queen's Ferry. Monsieur, je suis ici à l'ancre prêt à larguer mes amarres et vous envoie mon mousse pour vous en aviser. Si vous avez quelque autre commission pour les pays d'outre-mer, c'est aujourd'hui qu'il faut vous décider, car le vent nous est propice pour sortir du Firth. Je ne vous cacherai pas que j'ai eu des difficultés avec votre agent, M. Ron Keylor, difficultés qui, si elles ne sont pas tôt résolues, pourraient vous attirer des ennuis. J'ai tiré un chèque sur vous, entre parenthèses, et suis, monsieur, votre très humble et obéissant serviteur, Elias Hoseason. Vous voyez, David, reprit mon oncle, aussitôt que j'eus fini, je suis en affaire avec ce Hoseason, le capitaine d'un brick de commerce, le Covenant de Dysart. Maintenant, si vous voulez que nous accompagnions ce garçon, j'irai voir le capitaine à son auberge, ou mieux encore, à bord du Covenant, pour le cas où il aurait des papiers à signer. Et, loin de perdre du temps, nous pousserions par la même occasion jusque chez le notaire, M. Ron Keylor. Après ce qui s'est passé, vous ne me croiriez sans doute pas sur parole, mais vous en croiriez M. Ron Keylor. C'est l'agent d'affaires de la moitié de la noblesse du pays. Il est vieux, sans doute, mais très respecté, et de plus, il a connu votre père. Je réfléchis une minute. Il s'agissait d'aller à un port d'embarquement, sans nul doute populeux, où mon oncle n'oserait tenter aucune violence contre moi. En attendant, la compagnie de ce mousse m'était une sauvegarde. Une fois là-bas, je comptais obliger mon oncle à aller chez le notaire, même si son offre actuelle n'était pas sérieuse. Et peut-être aussi, dans le fond du cœur, souhaitais-je voir de près la mer et les navires. Il faut se rappeler que j'avais passé toute ma jeunesse dans les montagnes de l'intérieur, et que je venais, 2 jours auparavant, de voir pour la première fois le Forth étalé devant moi comme une dalle bleue, avec les navires faisant voile à sa surface, pas plus gros que des joujoux. Tout compte fait, ma décision fut prise. « Très bien, dis-je, allons à Queen's Ferry. » Mon oncle mit son habit et son chapeau, et se boucla aux côtés d'un vieux coupe-chou rouillé. Puis on éteignit le feu et, la porte fermée, nous nous mîmes en route. Le vent, établi dans ce rhum glacial du nord-ouest, nous soufflait presque au visage. On était en juin, l'herbe était toute blanche de marguerites et les arbres de fleurs, mais à en juger d'après nos ongles bleuis et nos poignets douloureux, on se serait cru en hiver par une gelée de décembre. L'oncle Ebenezer marchait dans le fossé, se balançant de droite à gauche comme un vieux laboureur qui revient des champs. Il ne prononça pas un mot de toute la route, et je fus réduit à la conversation du mousse. Il me raconta qu'il s'appelait Ransom, et qu'il naviguait depuis l'âge de 9 ans, mais qu'il ne savait plus actuellement son âge, car il avait perdu son compte. Il me fit voir ses tatouages, découvrant sa poitrine en plein vent, malgré mes remontrances, car je croyais que c'était assez pour le tuer. Il me débita les plus affreux jurons dont il se souvint, mais plus en écolier vicieux qu'en homme, et il se vanta d'une absurde quantité de méfaits qu'il avait soi-disant commis. Larronnerie, fausses accusations, voire assassinat. Mais le tout avec un tel manque de vraisemblance dans le détail, avec un accent si peu convaincu et si hésitant que j'étais plus disposé à le plaindre qu'à le croire. Je l'interrogeai sur le brick, le plus fin navire qui eût jamais navigué, affirma-t-il, et sur le capitaine Hoseason, dont il fit aussi le plus grand éloge. Hizzy Hawsey, comme il l'appelait toujours, était, à l'entendre, un homme qui ne craignait rien du ciel ni de la terre. Il eut, comme on dit, donné toute voile dehors en plein jugement dernier. Il était grossier, farouche, sans scrupules et brutal, ce en quoi mon pauvre Mousse s'était appris à révérer les qualités de l'homme et du marin. Il n'admettait qu'un défaut dans son idole. « Ce n'est pas un marin, avouait-il. C'est M. Schwann qui dirige le brick. M. Schwann, le meilleur marin de la terre, à part la boisson. Ah, je vous crois qu'il boit. Tenez, regardez ça. » Et, rabattant son bas, il me fit voir une large blessure fraîche et rouge qui me glaça le sang. « Il m'a fait ça. C'est M. Schwann qui m'a fait ça, dit-il avec fierté. « Comment, m'écriai-je, vous supportez qu'il vous traite aussi brutalement ? Vous n'êtes pas un esclave pour vous laisser faire ainsi ?»« Non, dit le pauvre imbécile, changeant aussitôt de ton, et je le lui ferai voir. Regardez !» Et il me montra un long poignard à gaine qu'il m'affirmait avoir volé. « Oh, dit-il, qu'il essaie un peu, je l'en défie, je l'aurai. Oh, ce ne serait pas le premier !» Et il appuya son affirmation d'un pauvre, bête et vilain juron. Je n'ai jamais ressenti pour quiconque en ce vaste monde pitié pareille à celle que m'inspira ce triste fou. Et je commençais à comprendre que le brick Covenant, malgré sa pieuse dénomination, ne valait guère mieux qu'un enfer flottant. N'avez-vous donc pas d'amis ? Dis-je. Il me répondit qu'il avait eu un père dans un port anglais, j'ai oublié lequel. « Lui aussi était un homme, dit-il, mais il est mort. »« Au nom du ciel, m'écriai-je, ne pourriez-vous trouver une occupation honorable à terre ?»« Oh non, dit-il, en clignant et d'un air très méfiant, on me mettrait à un métier. »« Je connais un truc qui vaut deux fois mieux, ah oui ?» Je lui demandai quel métier pouvait bien être aussi redoutable que le sien actuel, où sa vie était continuellement menacée, non seulement par le vent et la mer, mais par l'horrible cruauté de ceux qui étaient ses maîtres. Il avoua que j'avais raison, puis il se mit à faire l'éloge de sa vie, à vanter le plaisir d'aller à terre avec de l'argent en poche, et de le dépenser comme un homme, et d'acheter des pommes et de crâner, et d'épater les pieds boueux de gamins. « Et puis ça ne va pas si mal que ça, dit-il. Il y en a de plus mal lotis que moi. Il y a les 20 livres. »« Oh, ma mère, il faudrait que vous les voyiez embarquer. Tenez, j'ai vu un homme aussi vieux que vous, je pense. » Je lui paraissais vieux. Il avait même de la barbe. « Eh bien, nous n'étions pas plutôt sortis de la rivière, et il n'eut pas plutôt cuvé la drogue. Dieu, comme il criait, se démenait. Je me suis joliment payé sa tête, je vous assure. » Et puis, il y a les petits aussi. Oh, petits par rapport à moi. Je vous assure que je les mets au pas. Quand nous emmenons des petits, j'ai une garcette à moi pour les rosser. » Et il continua ainsi, tant qu'à la fin, je compris qu'il entendait par « les 20 livres » ces infortunés criminels qu'on envoie outre-mer pour être esclaves en Amérique du Nord, ou les encore bien plus malheureux innocents qui étaient enlevés ou trépanés, selon l'expression consacrée, pour satisfaire des intérêts ou des vengeances particulières. Nous arrivâmes alors en haut de la côte et découvrîmes le Ferry et le Hope. Le First de Forth, comme on sait, se rétrécit en ce point jusqu'à n'avoir plus que la largeur d'une rivière moyenne, ce qui a permis d'y établir un bac commode pour aller vers le nord, et de transformer l'autre rive en un port bien abrité pour toutes sortes de navires. Juste au milieu de l'étroit se trouve une île avec des ruines. Sur la rive sud, on a bâti une jetée pour le service du bac, et à l'entrée de la jetée, de l'autre côté de la route, j'aperçus, adossé à un joli jardin de houx et d'aubépines, la maison qu'on nomme l'auberge de House. La ville de Queen's Ferry est située à l'ouest, et le voisinage de l'auberge paraissait très désert à cette heure, car le bac venait juste de partir vers le nord avec ses passagers. Une yole, cependant, était amarrée le long de la jetée, avec des matelots endormis sur ses bancs. C'était là, me dit Ransom, l'embarcation du navire qui attendait le capitaine. Et, environ à un demi-mile du bord, tout seul au mouillage, il me montra le Covenant lui-même. À bord, on se préparait à appareiller, on hissait les vergues à leur place, et le vent qui soufflait de cette direction m'apportait le chant des matelots qui allaient sur les cordages. Après tout ce que je venais d'entendre au long du chemin, je considérais ce navire avec une réputation extrême, et au fond du cœur, je m'apitoyais sur les pauvres âmes condamnées à partir avec lui. Nous nous étions arrêtés tous trois au sommet de la côte, mais je traversai la route et m'adressant à mon oncle. « Je crois devoir vous prévenir, monsieur, dis-je, que pour rien au monde, je n'irai à bord du Covenant. » Il parut s'éveiller d'un songe. « Eh, dit-il, qu'est-ce que c'est ?» Je répétai ma phrase. « Bon, bon, dit-il, nous passerons par vos volontés. Mais pourquoi rester ici? Il fait un froid mortel, et si je ne m'abuse, le Covenant va bientôt prendre la mer. »